Alors, pour dire comment on a procédé, très rapidement, très schématiquement, Annie a travaillé sur la question de l'éducation à la citoyenneté, pour faire écho à ce qu'avait dit Gérard Noiriel ce matin, en travaillant sur des termes qui sont éducation, citoyenneté, instruction civique, ou des notions comme ça au niveau francophone, et puis au niveau international, en travaillant sur la notion de citizenship education, qui est le terme le plus couramment employé au niveau international sur ces questions-là, avec tout ce que cela effectivement représente comme approximation et comme étiquette commode qui a des réalités et des traductions parfois bien éloignées de ce qu'on imagine dans les pays concernés. Et qu'est-ce qu'on peut retirer de ce travail de survol que l'on a fait, donc des écrits qui se présentaient comme étant consacrés à l'éducation à la citoyenneté dans un nombre de lieux et de publications internationales? L'un des enseignements forts, premièrement, c'est une tension dont il ne m'appartient pas de dire si on doit la considérer constructive ou non, mais qui me paraissait intéressant parce que là, elle est réellement en décalage, me semble-t-il, avec l'héritage conscient ou inconscient qu'on a en France sur ces questions-là. Une tension entre la citoyenneté nationale qui est massivement en référence à l'État, hein, on en a beaucoup parlé ce matin, et l'idée de citoyenneté globale qui apparaît de plus en plus fréquemment et qui est plutôt une référence non pas à l'État mais à référence à quelque chose qui se présente comme une morale. Ça, c'est la première tension qui me paraît relativement importante, ce qui ne veut pas du tout dire que l'appel à la citoyenneté globale est une citoyenneté où l'État, la nation, toutes ces entités-là n'existeraient pas, mais qui se présente de façon résolument différente, c'est-à-dire de ça ou de là ou à côté du politique, on y reviendra plus loin. Mais il était évident, par exemple, que dans cette citoyenneté globale, la question de la mondialisation ou la question des droits de l'homme, des valeurs universelles reviennent très fréquemment, alors que l'éducation civique initiale s'insérait généralement plutôt dans une communauté de citoyens d'un État-nation ou dans des cadres qu'en France on connaît par exemple à travers des idées comme, je pensais notamment à ce que disait François Dubé sur le programme institutionnel de l'école républicaine. Là évidemment on est dans une rupture, dans un décalage ou dans une évolution par rapport à cette tradition que l'on charrie de façon consciente ou de façon plus ou moins inconsciente. Et ces nouvelles questions de citoyenneté à l'éducation posent, comme les anciennes, mais dans des termes différents, les problématiques par exemple, d'écart ou non à la question du patriotisme, d'intégration ou non de la pensée critique. Par exemple, quelque chose que l'on a trouvé intéressant dans la littérature que l'on a parcourue, c'est le problème dans des États dans lesquels l'éducation citoyenne a comme priorité la réconciliation des communautés dans des pays qui ont un passé, y compris récent, relativement tumultueux. Si je vous cite évidemment la Russie ou l'Afrique du Sud, vous voyez tout de suite ce à quoi je peux faire illusion. Comment peut-on faire une éducation qui, quelque part, est une éducation qui cherche à exalter des valeurs un peu nationales, ou du moins à être prise dans un mouvement national, dans un pays où justement le national est une énigme, essaye de se reconstruire sur d'autres bases, et où la question de réconciliation de partis qui étaient plus ou moins bien insérés dans le national se pose tous les jours. Mais c'est aussi la question de l'éducation à la citoyenneté dans des pays où la démocratie ne va pas de soi, voire même dans des pays que l'on pourrait dire autocrates. Et on va y revenir là aussi, mais on voit bien par exemple le problème que peut poser le fait de savoir si le bon citoyen, c'est par exemple celui qui respecte un certain nombre de lois élémentaires de la société, du vivre ensemble, ou si c'est quelqu'un qui participe à des institutions politiques. Pour prendre un exemple caricatural, est-ce qu'un bon citoyen, c'est celui qui respecte le code de la route ? Autrement, est-ce que le respect du code de la route suffit à faire un bon citoyen? Dit sous cette forme, ça l'a un peu prêté à sourire, mais c'est une question importante qui se pose, quand on voit énormément de glissements entre est-ce que la citoyenneté c'est une éducation justement à une participation politique ou à un vivre ensemble, à des respects de règles de vie commune. Et je crois que même en France de ce point de vue-là, on est interpellé sur ces questions-là aujourd'hui, tout du moins dans le monde scolaire. Et là également, ça me semblait intéressant de poser la question de savoir si l'éducation à la citoyenneté est uniquement réservée aux pays dits démocratiques. Est-ce qu'on peut envisager l'éducation à la citoyenneté non seulement dans des dictatures, mais aussi dans des pays à pouvoir politique fort ou à pouvoir politique qu'on estime, à tort ou à raison, dans une forme d'ethnocentrisme, un peu éloigné de notre modèle démocratique occidental habituel. Je ne connais très peu ce qui se passe dans ce pays. Je ne connais pas les détails non plus de son ordre scolaire, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est une éducation à la citoyenneté en Russie, par exemple, qui est un cas d'espèce très intéressant pour nous, puisque ce n'est ni dictature, ni exactement ce que l'on imagine comme une démocratie, sinon idéale, du moins une démocratie réelle telle qu'on l'imagine. Autre aspect qui m'a paru très intéressant dans les comparaisons internationales, c'est de distinguer sur la période récente, il appartiendra aux historiens de relativiser cet aspect-là, mais une sorte de glissement justement du politique vers le culturel. C'est-à-dire d'une éducation considérée essentiellement comme un rapport à l'État et aux formes organisées de représentation collective, de fonctionnement des institutions, de représentation des groupes sociaux, culturels et politiques, etc., à une citoyenneté qui se vit essentiellement comme un objectif de socialisation ou d'intégration des élèves à autre chose. Alors là aussi, on est quand même au cœur de ce débat quand on parle d'identité nationale. Et j'écoutais ce matin l'intervention qui rappelait un certain nombre de choses sur les événements à Marseille avec les Italiens, etc. Il est évident qu'aujourd'hui, la question de la citoyenneté multiculturelle est souvent avancée dans tous les pays, et beaucoup notamment dans les pays nordiques qui découvrent aujourd'hui les phénomènes d'immigration, etc., pour essayer de trouver un modèle de citoyenneté, une éducation à la citoyenneté qui soit adaptée à l'état actuel des populations et notamment des jeunes élèves dans ces écoles. Et il y a également aussi des problèmes très liés à l'actualité qui se réfractent de façon très violente dans les problèmes de citoyenneté. Quelques exemples très récents pour l'illustrer, les événements du 11 septembre 2001. En Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où il y a énormément de réflexions sur justement quel modèle de citoyenneté multiculturelle peut-on transmettre dans les écoles, où il y a eu beaucoup de travaux, y compris d'actions pédagogiques en ce sens-là dans les années récentes. La plupart des observateurs ont observé après le 2001 un retour, est-ce que le mot de retour est correct, en tout état de cause une inflexion vers quelque chose comme une identité nationale dans l'éducation civique qui était un peu, qui avait du mal à coexister avec la promotion de l'identité multiculturelle qui était mise en avant d'une façon très différente de celle que l'on a l'habitude de connaître en France. Et qui était, je dirais que là, on voyait un choc réellement se produire entre un modèle de citoyenneté multiculturelle qui tendait à se détacher du national, de la nationalité, et avec quelque chose qui, en définitive, était un retour vers la nationale, vers le national au moment de ce choc de l'après 11 septembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 21. 2001. autre aspect également assez intéressant de voir, c'est, j'y faisais allusion tout à l'heure, dans les pays nordiques, il y a une conception de l'éducation à la citoyenneté qui est plus souvent plus polarisée du côté des valeurs culturelles que de la culture politique telle qu'on l'entend. Mais essentiellement parce que, et ça c'est je dirais, c'est une évidence, je le redis là, mais ça me paraît, j'aurais peut-être dû le dire en début. Il est évident que l'éducation à la citoyenneté est inséparable des formes de construction des cultures nationales et notamment des cultures politiques nationales et donc de l'État national. On peut parler de République dans certains cas, dans d'autres non, mais et que par conséquent, elle arrive toujours dans ce qu'en sociologie on appelle parfois des sentiers de dépendance, c'est-à-dire où à un moment donné, on fait en fonction d'un certain nombre de traditions, d'objets, d'outils, de dispositifs, de cadres qui existent au niveau national. Si je prends par exemple l'exemple de la Finlande, il y a une grande réflexion sur l'éducation de la citoyenneté actuellement en Finlande, puisque c'est un pays qui apparaît comme avoir une très grande cohésion culturelle et sociale liée à son histoire, à sa population, à sa situation géographique et économique, etc., qui aujourd'hui essaye de prendre en compte le début d'immigration qu'il a, qui ne déstabilise pas aujourd'hui l'école, mais qui quand même pose de réelles questions, et où l'éducation à la citoyenneté est aujourd'hui essentiellement vue comme un débat autour de la façon d'introduire la prise de conscience du multiculturalisme dans une société qui était relativement homogène. Et dont on a attribué à tort ou à raison, je trancherai pas là-dessus, ses succès scolaires, les succès de son école unique, les résultats dans PISA, etc., etc. Je pense que vous avez déjà entendu ce débat. Et puis surtout, une question centrale pour l'éducation à la citoyenneté dans tous les pays, ça a été abordé ce matin là aussi. Comment fonder une éducation à la citoyenneté quand on sait que l'appartenance à une communauté politique n'est plus aujourd'hui le seul mode d'identification de l'individu. Ne l'a peut-être jamais été, mais que la question se pose dans des termes renouvelés. On pense évidemment aux jeunes, à la jeunesse, qui peut avoir des vecteurs d'identification, bien évidemment sur les aspects les plus spontanés, parfois superficiels auxquels on pense, la musique, les vêtements, etc., mais au-delà de ça, qui sont intégrés dans des courants, dans des identités qui dépassent le cadre national, ou au contraire qui sont infranationales, en tout cas de cause qui sont mouvantes, qui sont ouvertes, et qui n'ont peut-être pas les ancrages historiques auxquels on était habitué, et qui quelque part présentaient un cadre sécurisant, ou du moins où il était possible d'asseoir plus facilement une transmission de valeurs, voire une transmission de savants. De valeur de savoir, je veux dire, excusez-moi. Autre dimension, l'aspect cognitif, mais aussi l'aspect affectif. On n'en parle pas souvent, mais comme dans tous les enseignements, si l'école, tout du moins en France, privilégie traditionnellement la dimension purement cognitive, il y a aussi un aspect affectif très fort, et qui, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, est très très important, ne serait-ce qu'à travers l'exemple dont tu parlais ce matin là sur l'enseignement du racisme, mais il y en a, je dirais que même en mathématiques, hein, c'est le cas, même si on fait semblant de l'ignorer. Et la tendance générale sur ces questions d'éducation à la citoyenneté, du moins dans les systèmes éducatifs officiels, même si ça crée des problèmes avec la pratique, est d'ignorer cet aspect affectif et de ne considérer que la dimension cognitive de l'enseignement ou de l'éducation. Autre question forte, vous savez la tendance qu'on la critique on estime qu'elle est intéressante, mais la tendance réelle, tout du moins au niveau d'un certain nombre d'organisations internationales, mais je pense au niveau des systèmes éducatifs, de prendre de plus en plus compte la question de la transmission des compétences plutôt que la question de la transmission des seuls savoirs. Vous savez aussi d'ailleurs que dans le cadre européen des compétences, la citoyenneté fait partie des compétences clés qu'on est censé transmettre et que d'ailleurs, dans notre socle commun de connaissances et de compétences, il y a une place qui est réservée à la citoyenneté. Et la question que ça pose, puisque quelle est la différence profonde entre les compétences et les savoirs de ce point de vue-là, c'est réellement l'idée d'un savoir en situation, d'un savoir qui est mis en pratique, d'attitude, de comportement que l'on peut transmettre, voire même évaluer, ce qui pose toujours problème dans l'école. du point de vue de l'éducation à la sécurité, ça pose donc le lien de cette mise en situation, de cette démonstration de compétences citoyennes. Est-ce qu'elle doit se faire, de ce point de vue-là, dans l'école ou hors de l'école? Et dans l'école, qu'est-ce que ça signifie? J'ai connu, moi, dans mon enfance, l'éducation à la citoyenneté qui commençait par, par exemple, les opérations de vote réalisées dans la classe pour sensibiliser à la question du suffrage universel, du scrutin, de l'élection, du dépouillement, etc., etc. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut envisager autre chose? Qu'est-ce que cela signifie? C'est tout aussi la question... Alors ça, c'est sur le volet purement politique, c'est-à-dire initier les élèves au fonctionnement des institutions politiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on l'étend carrément à la question, osant le mot, d'une sorte de démocratie à l'école, ou du moins de la question de la participation et de l'engagement dans l'apprentissage? Par exemple, est-ce qu'une éducation à la citoyenneté, ça signifie aller jusqu'à promouvoir des formes de transmission, des formes de pédagogie qui reposent sur la coopération, sur la participation, sur l'implication, sur le travail de groupe, en considérant que des modes plus transmissifs, plus traditionnels, plus frontaux d'enseignement sont des modes qui, quelque part, ne préparent pas à une citoyenneté coopérative, participative, ouverte, etc., etc. Ce sont des questions qui sont posées dans un certain nombre de pays. Et de même, on peut se demander, si on va jusqu'au bout, s'il n'y a pas une contradiction entre une école qui, en dernière analyse, est une institution et où, quelque part, il y a une autorité liée au savoir qui ne peut pas être une autorité qui se base sur une sorte de démocratie, de manipulation égale avec le savoir, avec le vrai apprentissage d'une citoyenneté et de valeurs démocratiques dans l'école. Bon. Ce sont des questions un peu lourdes qui me paraissent très difficiles à traiter, mais ce sont des questions, en tout cas de cause, qui sont débattues parfois dans certains pays. C'est pour ça que je me sentais un peu obligé d'en parler. Ceci dit, si l'on revient à des choses plus descriptives et plus concrètes, on voit quand même, et de ce point de vue-là, on est moins en terrain d'étrangeté par rapport à notre école, qu'il y a un modèle qui n'est qu'un modèle parmi d'autres, mais qui quand même est assez majoritaire, tout du moins dans les pays européens tels qu'on peut le voir à travers des documents du Conseil de l'Europe essentiellement, puisque c'est plutôt le Conseil de l'Europe qui s'est intéressé à ces questions que l'Union européenne. Hein. J'avais oublié de le préciser. C'est l'idée quand même que l'éducation à la citoyenneté à l'école primaire, c'est essentiellement une sensibilisation à la démocratie comme mode de vie, avec les idées de transmission, de valeurs de respect, de politesse, de non-empiétement sur l'air de l'autre, de choses comme ça. Qu'à l'enseignement secondaire inférieur, qui correspond à notre collège, on aborde plutôt la démocratie comme forme de société, et qu'au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, notre lycée, on aborde plutôt la question de la démocratie comme forme de gouvernement. C'est en tout cas la conception que l'on retrouve plus ou moins dans notre socle commun, dans les instructions officielles actuelles, et on tend à retrouver ces grandes tendances dans plusieurs systèmes éducatifs européens. Toujours pour continuer sur ces descriptifs de systèmes éducatifs, on voit également la grande variété des accrochages disciplinaires de l'éducation à la citoyenneté, même si l'expression accrochage disciplinaire est une expression française, qu'on ne retrouve pas vraiment, enfin c'est pas les mêmes concepts ailleurs. Mais c'est-à-dire que, évidemment, on trouve souvent l'histoire, mais on peut aussi trouver d'autres disciplines. On peut trouver des constructions ad hoc, assez différentes. Par exemple, un enseignement homme et société en Hongrie, j'avais noté, parce que ça, je trouvais l'expression intéressante. Et on peut aussi trouver souvent beaucoup, beaucoup d'enseignements transversaux qui ne sont pas particulièrement l'apanage des professeurs d'histoire ou ni même de philosophie. Et derrière, il y a des conceptions très différentes. Quand il s'agit de faire un apprentissage des règles du vivre ensemble, un certain nombre de systèmes éducatifs estime qu'il revient à tout enseignant de pouvoir le transmettre. Quand il s'agit d'un enseignement qui est plus une initiation aux formes politiques de vie en société, on se rabat effectivement plus sur des spécialistes des formes d'organisation sociale. Mais il n'y a pas de règles intangibles en la matière. Et des choses qui nous apparaissent un peu évidentes, c'est vrai qu'en France, bon, quelque part l'organisation de tout le cycle école et nation en témoigne. On a tendance tout de suite à associer l'histoire-géographie pour des raisons historiques accidentelles, hein, il faut bien le dire, à cet enseignement de la citoyenneté. Ce n'est pas le cas partout. Ça me paraissait important de le rappeler. Et de même, au niveau des horaires, une extrême grande variété. Si on prend dans l'enseignement secondaire inférieur, je crois que j'ai vu des chiffres allant d'une dizaine d'heures d'enseignement par an jusqu'à 90 heures. Je crois que c'est les Suédois qui ont un enseignement formalisé d'éducation à la citoyenneté le plus important. Et dans l'ensemble européen, la France est plutôt vers ceux qui ont le moins d'enseignement formalisé d'éducation à la citoyenneté parmi les différents pays. Ce qui ne veut rien dire par rapport à l'effectivité de cette éducation à la citoyenneté, puisque comme elle peut effectivement être exercée à l'occasion d'autres enseignements, d'autres pratiques, etc. Mais enfin là, je parlais de l'enseignement formel à proprement dit. Mais encore faut-il savoir où c'est qu'on met des séparations ou des cloisonnements entre ce qui est un enseignement moral et un enseignement à la citoyenneté. Ce n'est pas toujours évident. Il peut exister, notamment dans de nombreuses écoles primaires publiques ou privées un peu partout en Europe, des séquences d'enseignement à la morale qui ne sont pas étiquetées comme des séquences d'éducation à la citoyenneté, dont on trouve certains éléments dans d'autres pays comme partie des enseignements à la citoyenneté. Et on retrouve après à chaque fois toutes les questions que j'ai brassées avant, c'est-à-dire parfois des enseignements où est privilégié l'apprentissage, que je vais noter comme l'apprentissage de l'autre, l'apprentissage du vivre ensemble, l'apprentissage à la confrontation, à la collaboration, à la participation, et d'autres qui privilégient la question de la participation aux institutions politiques. À savoir qu'on trouve partout par ailleurs en Europe, j'avais oublié de dire, évidemment, des constats répétés de moindre implication des jeunes dans le fonctionnement des institutions politiques, sauf dans les pays nouvellement indépendants d'Europe centrale et de l'Est. Mais bon. Une autre question lourde, et qui se relie un peu à ce que j'avais dit sur le problème de l'identification des individus à une communauté, c'est de savoir si on développe l'individualité ou si on développe l'appartenance à une communauté. Est-ce que, grosso modo, le modèle explicite ou implicite de la citoyenneté, c'est développer une personne qui soit autonome, qui soit capable de faire ses choix, qui soit capable de respecter les autres, qui soit capable de prendre en charge son destin, qui est un peu le modèle implicite derrière le modèle des compétences, c'est-à-dire de former un individu socialement autonome, peut-être plus qu'un citoyen qui se rattache réellement à une communauté, ou est-ce qu'au contraire, on privilégie l'appartenance à une communauté, quelle que soit la façon dont on précise cette communauté, quel que soit son niveau. C'est une vraie question lourde, et derrière, il y a des modèles nationaux qui sont évidemment profondément différents, et qui reposent de façon nouvelle la question des transmissions des héritages nationaux, mais aussi des façons d'évolution dans la société. Également, question lourde, surtout pour nous, je trouve, dont vous allez débattre, je pense, c'est la question de savoir si on transmet des comportements ou si on transmet des savoirs précis. L'école, c'est transmettre des savoirs. Est-ce que dans le cas de l'éducation à la citoyenneté, elle doit transmettre des savoirs ou des comportements ? C'est un problème lourd, puisque ça peut... Certains pays, dans la recherche de dire qu'il faut transmettre d'abord des comportements, vont jusqu'à privilégier ouvertement des pratiques qui ne sont même pas uniquement dans l'école, mais aussi au-delà de l'école. C'est-à-dire de la participation des élèves à des actions en dehors de l'école. Ce qu'on pourrait appeler de façon rapidement des actions civiques ou des participations au fonctionnement de la société, de la communauté, dans le village, dans la ville, dans la société. Avec des aspects que nous, Français, on voit peut-être parfois comme quelque chose d'un peu de folklorique, mais qui peuvent être importants dans les pays susdits quand des élèves participent à des actions qui sont plus ou moins ludiques, plus ou moins caritatives, plus ou moins associatives, etc., etc., et que cet engagement-là est pris en compte comme un des éléments nécessaires des apprentissages, ou du moins de l'éducation que l'école doit contribuer à transmettre. Je trouve que c'est une question lourde, que nous sommes en France très mal préparés, je pense, à traiter, mais qui pose la question de savoir si l'école participe d'une éducation... On parlait de culture commune ce matin. Participe justement de l'éducation dans la société, ou si elle est réellement là pour transmettre une culture scolaire spécifique et qu'il appartiendra à chaque individu d'emporter avec lui dans son sac à dos dans la société. C'est quelque chose d'assez difficile, et qui pose aussi la question de savoir s'il, à un moment donné, il faut dépolitiser l'éducation à la citoyenneté pour mieux assurer la transmission d'autres valeurs. Des valeurs du vivre ensemble, voire même des valeurs démocratiques. On a lu quelques articles qui, prenant comme acquis, on peut le contester, mais prenant comme acquis le fait de les jeunes ont une mauvaise opinion de la politique, des acteurs politiques, du système politique tel qu'il existe aujourd'hui, prenant comme acquis ça, disent l'éducation citoyenne ne doit surtout pas chercher à transmettre le fonctionnement du système politique tel qu'il est aujourd'hui. Au contraire, on doit la dépolitiser au maximum pour assurer la transmission des valeurs, de valeurs entre guillemets méta, c'est-à-dire des valeurs transcendantales à partir de là, qui sont les valeurs universelles de la démocratie, etc., etc. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas évident de comprendre quand on vient d'un héritage purement français, mais qui existe dans un certain nombre d'endroits. Et pour résumer cela d'une certaine façon, je trouve que une question lourde qui est posée et qui n'est pas résolue, il n'y a pas eu j'ai l'impression de conclusion ferme là-dessus, de consensus, c'est de savoir justement si la citoyenneté c'est quelque chose que l'on enseigne ou c'est quelque chose dont on doit favoriser l'apprentissage. Ce qui pose le problème de savoir si c'est un ensemble de savoirs ou non, si cela doit être réservé à certaines disciplines ou à certains enseignants ou non, à quel niveau que ça doit intervenir de la scolarité formelle, et si ça a un sens justement d'en faire un attribut spécifique de la scolarité formelle. Ce qui, là aussi, se pose de façon différente dans le cadre où on raisonne tant d'un point de vue de paradigme des compétences ou de formation tout au long de la vie. Voilà en quelques mots... Ouais, je crois que c'est bon. Voilà en quelques mots des choses que l'on a pu voir au travers de la confection d'un dossier d'actualité. Alors j'ai été très général par définition, hein, qu'on fait un peu un survol international. Si on s'arrêtait sur chaque pays ou chaque exemple régional, ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est là où on saisit la substance des choses, donc évidemment c'est frustrant d'en rester à quelques généralités qui font un peu café du commerce parfois, mais bon, j'ai essayé de résumer quelques grandes tendances que on a pu voir à l'occasion de ce travail. Et je voulais juste finir sur quelque chose de plus personnel, qui n'a rien à voir avec ce dossier, mais sur l'éducation à la citoyenneté que je relie à mon expérience d'élève et que j'ai entendu ce matin dans l'exposé de Gérard Noyel. Je ne me rappelle plus à l'occasion de quel aspect, mais qui était la question de l'isoloir, par exemple. J'avais été frappé du fait que des choses qui nous semblent acquises aujourd'hui ne le sont pas toujours, et y compris pour les jeunes élèves actuellement. L'exemple concret, c'est quand j'étais étudiant, on m'avait appris comment la généralisation du vote et du passage par l'isoloir en France avait été quelque chose qui n'avait pas du tout été évident et qui n'allait pas du tout de soi. Que ça avait été très violent d'imposer, y compris aux populations, à certaines populations, le fait que on se cachait pour aller voter. Quand je dis qu'on se cachait, c'est-à-dire qu'on passait seul derrière l'isoloir, que ce n'était plus l'affirmation d'une identité collective, mais l'affirmation de cette sorte de mythe du choix individuel. Et dans des communautés paysannes, aussi bien des communautés ouvrières, l'imposition de l'isoloir au XIXe siècle en France avait parfois été quelque chose de tout sauf évident, aussi bien pour des paysans qui voulaient, quand ils votaient, réaffirmer leur soutien aux notables locaux, souvent identifiés aux propriétaires, voire même au reste de la noblesse, des choses comme ça, que ça avait été quelque chose aussi de douloureux dans des milieux ouvriers, qui avaient une critique donc de droite et de gauche, hein, de l'isoloir, pour parler vite, qui, eux, estimaient que quand on votait, on affirmait son appartenance à un groupe social, etc. Et imposer l'isoloir, et imposer, y compris à un moment donné, à des générations d'élèves, d'expliquer en quoi l'isoloir était indissociable de l'expression du suffrage universel, ça apparaissait à un moment donné, enfin moi quand je l'ai fait, quand j'étais moi-même enfant, un siècle plus tard, comme quelque chose de strictement technique, comme allant de soi. Et en fait, derrière, il y avait toute une conception... évidemment, du système politique, de la citoyenneté, du suffrage universel qui était derrière, c'était très très intéressant. Et je me demande si aujourd'hui, je me demandais aujourd'hui, sans avoir de réponse, qu'est-ce que représentaient ces actes qui semblent aller de soi pour nous de la participation politique, quels actes symbolisaient cette participation politique, qu'est-ce qu'on transmettait là-dedans et qu'est-ce qui marchait ou qu'est-ce qui ne marchait pas avec les jeunes générations dans cet ensemble de gestes et d'objets qui font au concret le fonctionnement de la machine politique. Voilà, je vous remercie.
Merci Olivier. En t'écoutant, en fait, je pensais à deux choses. Tu as évoqué la tension entre l'éducation, la citoyenneté nationale et la citoyenneté globale ou morale, hein, telle que tu l'as définie, appelée. Je me suis rappelé de l'enquête qui avait eu lieu avec François Odigier et Nicole Tuteau-Guyon sur l'école primaire. Enfin, Nicole Tuteau-Guyon principalement, mais co-rédigée après avec François Odigier.
Qui a relu notre dossier d'ailleurs aussi.
Voilà, qui a dû sortir en 2004 peut-être. Sur l'école primaire spécifiquement, où on voyait bien qu'il y avait à la fois cette tension, puisque la question c'est qu'à la fois on avait un contenu de savoir sur la patrie, enfin pas la patrie d'ailleurs, la nationalité, le national avec la Marseillaise, le drapeau français, le Marianne, des symboles de la République, et en même temps, dans les pratiques effectives, un basculement à peu près dans les années 80, ce qui me fait dire que les années 80 sont une période fondamentale, sur bien des titres, hein, plusieurs moments dans la matinée il a été question des années 80, je crois qu'il y a là une rupture sur le fait qu'on est passé en gros d'une instruction civique à une éducation au vivre ensemble. Et du coup, alors je me suis moi toujours demandé, est-ce qu'il n'y a qu'en France ? D'après ce que tu as dit, j'ai l'impression que ça se retrouve un peu partout et du coup je me suis posé la question du cadre supranational qu'est l'Europe. Et notamment la force d'imposition depuis les directives des années 70, du Conseil de l'Europe principalement, de tous les rapports qui sont faits sur l'éducation civique, sur le vivre ensemble. Et du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'il y ait une enquête spécifique sur la d'historicisation de termes que je vais vous donner, mais que vous allez reconnaître, puisque ce sont les nôtres actuellement dans les écoles françaises, de culture... Vivre ensemble, cette expression-là, alors nous on l'a repéré, c'est les années 80 en France, hein, c'est même la fin des années 80, le vivre ensemble, moi je faisais l'hypothèse que le vivre ensemble, toutes ces questions de culture, culture commune, vivre ensemble, étaient liées à la prise en compte explicite, et non pas réelle, mais explicite des familles issues de l'immigration et de la scolarisation des enfants de migrants, ce qui n'était pas du tout une nouveauté dans l'école de la République, mais simplement c'était une nouveauté d'en parler et surtout du coup de définir au nom de la culture d'origine les modalités d'un vivre ensemble au nom de la tolérance, ça c'est typiquement les années 80, c'est-à-dire comme quoi ce sont les enfants d'étrangers repérés comme étrangers, alors même qu'ils sont français majoritairement, qui du coup modifient le curriculum et les pratiques scolaires au point qu'il n'y a plus que le vivre ensemble qui compte. À l'école primaire, c'est massif. Hein. À l'école primaire, aujourd'hui, il est très rare d'avoir des cours d'instruction civique au sens d'instruction du national. En revanche, les pratiques sur la tolérance, le respect de la parole, la participation des élèves, tout ce que tu as énoncé, voilà. Et je me suis dit, bah, finalement, c'est peut-être un cadre européen et c'est peut-être l'Europe, le supranational, qui définit des modalités différentes de... Voilà, c'est simplement... On mettra tout ça en discussion, hein, si vous voulez bien. Le multiculturalisme, par exemple, voilà des notions, l'interculturel, l'éducation à l'interculturel. Je pourrais même rajouter, parce que il en a été question récemment, l'éducation à la Shoah, telle que c'est prononcée par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire l'idée que c'est à partir de notions civiques fondamentales que tous les Européens vont se reconnaître dans une manière d'être citoyen européen. Mais alors du coup, quid de ce que tu disais notamment pour la Russie, quid de l'enseignement de la patrie ? Je pense à l'Espagne, par exemple. L'Espagne a le même processus que nous, et pourtant on n'a pas la même histoire politique. On n'était pas en dictature de 45 à 75. L'Espagne, oui. Mais l'Espagne est passée d'une éducation très patriotique. Joan Pagès, le 1er avril, était venu nous montrer ça à travers les livres de géographie, d'histoire, où on montrait bien comment l'Espagne chrétienne définissait le bon citoyen, si jamais on respectait la famille, Dieu, enfin bon. Et elle est passée à une, on voit dans les écoles espagnoles, c'est que le vivre ensemble, au nom du multiculturalisme et de l'immigration. Non. Est-ce que effectivement dans des pays comme la Hongrie, alors la Hongrie, oui, je vous le dis parce que je connais bien la question, mais la Russie, par exemple, qu'est-ce qui se passe en Russie très concrètement? Et là, il y aurait vraiment, je crois... Alors, est-ce que tu as vu rapidement passer...
Non, moi, je n'ai pas eu le temps de voir.
D'accord. Parce que je pense que là, ça serait une réflexion à avoir. Du coup, ça permettrait de comprendre que finalement, l'Europe a un rôle bien plus fondamental qu'on ne le pense dans l'organisation des pratiques scolaires même. Alors même que les instituteurs, par exemple, dans les classes, n'ont pas conscience que l'Europe détermine. Mais il y a une sorte de sens commun, du coup, qui s'installe, d'allant de soi... Oui, c'est quand même bien de protéger ou de s'occuper de son voisin et de respecter la parole de l'autre. Mais avec l'évacuation d'une certaine manière du national,
juste,
dans les pratiques.
Juste par rapport à ce que tu dis, bon, précaution, quand on dit l'Europe détermine, moi je l'entends énormément. Quand on travaille énormément, il y a effectivement la tentation de se dire, ben, il y a un niveau qui détermine, alors c'est l'OCDE une fois, c'est l'Europe, etc. Attention, il y a surtout dans chaque pays... À un moment donné, des gens qui s'emparent d'outils, de discours, de cadres qui ont pu être construits à l'échelle européenne et qui donc, de ce fait, ont une certaine... On leur accorde une légitimité pour XX raisons et qui l'utilisent pour faire un certain nombre de choses au niveau national. Je ne dis pas qu'ils l'utilisent comme des prétextes, pas uniquement pour légitimer des réformes qui sont faites pour d'autres raisons, etc., mais qui, de façon, entre guillemets, honnête, ça veut rien dire, mais en tout cas qui y croient réellement, comme on croit à tout ce qu'on fait, prennent à un moment donné des choses, des outils qui sont construits, parce qu'au niveau national, on manque parfois d'outils, de doctrines, de cadres, etc., pour penser un certain nombre de choses. Et c'est clair que, là aussi, cette histoire de... J'ai été surpris, moi, de la récurrence de ce terme de citoyenneté globale, qui m'apparaît très, très bizarre, parce que c'est beaucoup utilisé, il faut promouvoir une citoyenneté globale, etc., etc., parce que j'ai du mal à voir à quoi elle se rattache. Une sorte de... Vous savez, un peu la métaphore du palais là, sur la patinoire. Hein, ça, on a l'impression que ça court dans tous les sens et qu'à chaque fois qu'on le pousse, ça va encore plus loin. On ne sait pas trop jusqu'où ça s'arrête. Et où, en même temps, le retour brusque, le rappel brusque, je dirais, pas à la réalité, mais à une certaine réalité. C'est pour ça que je citais un peu lourdement l'Angleterre et les États-Unis et l'après-septembre 2001, parce que là, il y a un moment donné, l'Angleterre était très avancée sur cette histoire d'essayer de définir l'identité citoyenne globale, etc. Bon, puis vous savez ce que c'est en Angleterre, hein, c'est le cadre européen, c'est pas leur premier souci. Bon, donc c'était vraiment tout de suite le monde, etc. Bon, etc. Aspect d'insertion dans le mainstream international, etc. Et où en même temps, on s'est quand même, assez vite, d'après ce que j'ai lu, rabattu sur quand même ce qui restait comme identité nationale quand il y a eu un traumatisme. Donc là-dessus, il y a des choses à intégrer qui montrent peut-être les limites. Bon.